Football's crazy, but not as crazy as your hunch. What's your hunch? It's me, the voice inside your head, that tells you what's going to happen in this weekend's games. The one that tells you it's going to be 9-0. 11, no, 12 corners. 2 yellows, 3 reds, and what, 1 rogue streaker? Okay, bit niche, but you get the picture. No matter how complex your hunch is, Betway's Bet Your Way Builder lets you combine markets like goal scorers, corners, cards, and match winner into one bet on one match, and you get odds instantly. Heed your hunch with Betway's Bet Your Way Builder.
Full terms apply. 18 plus. Be gambleaware.org.
Vous écoutez
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant la fin du championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche. Donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot.
Nicolas Jamain.
Avec Jonathan McCarty, avec Ludovic Aubry. Je veux dire comment McCarty?
McCarty.
McCarty, ah oui, avec son irlandais. McCarty. Ah. Comme les Tahitiens.
En fait, c'est pas l'accent irlandais vraiment, c'est que mon grand-père est gitan.
D'accord, ouais. Gypsy. Voilà. D'accord. Et Ludovic Obraniak, pour le coup.
Non, moi, tu dis normal, je m'invente pas une vie, moi. Non, c'est bien normal.
Il est bon. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. 32-16 ouvert. Appelez-nous, supporters lyonnais également. Pierre est toujours avec nous. On évoquera dans un instant, avec nos 4 drôles de dames, le tirage au sort, puisque nos 4 drôles de dames sont qualifiés pour l'Euro 2020. Italie, Allemagne, Espagne et bien sûr, Angleterre. On passera un peu plus de temps avec Paulo Breitner, notre adversaire. L'Allemagne, la National Manchester. En phase de poule. Lyon, on poursuit, ouais. Messieurs, ouais. Victoire lyonnaise de Buzyn, on disait.
Parce qu'il y a deux choses, moi, que je voulais souligner, vraiment, c'est du point de vue
Pierre
des
individualités. Pierre, je te rappelle.
Pierre, je sais pas, alors Pierre, tu me diras si t'es d'accord ou pas, mais du point de vue des individualités, attention, Jeffrey Nadelaïne, sur ce match-là, moi, j'ai trouvé qu'il avait tendance un petit peu à choper la maladie d'un Bertrand Traoré et compagnie, de garder un petit peu trop le ballon. Je sentis quand même qu'il a ralenti pas mal le jeu lyonnais. Et le deuxième point, c'est j'aimerais que. Je comprends pas, alors. Ok, il arrive, Andersen, gros transfert, grosse somme. Il a pas été nickel depuis qu'il est arrivé. Il a même été mauvais. Mais je trouve que c'est un petit peu difficile de le sortir du 11 de départ après le match contre le Zénith où il a joué un poste qui était inhabituel, à savoir axe gauche, avec un partenaire inhabituel, à savoir Marcelo, et face à des attaquants Dzibua et Azmoun qui étaient quand même assez fort. Donc le sortir de l'équipe après cette prestation-là, je trouve ça difficile. Et je pense que le salut de la stabilité défensive lyonnaise passera par installer sur le long terme la charnière Donayer Andersen. Pourquoi? Je prends juste la jurisprudence Rudy Garcia. Rudy Garcia, il a saccagé l'intégration de Tcheleta Tsar. Et j'ai l'impression qu'il est un petit peu en train de faire la même chose avec Andersen.
Ludo et ouais, Pierre.
Ah, la défense lyonnaise, c'était Black Friday.
C'était. Les seuls, quoi.
Ah ouais, non mais. La façon de défendre sur le premier but, Youssouf Koné, je te jure,
ça fait plusieurs fois, reconnais pas.
Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais non, mais même il est à la rue.
Il est nul.
Il est à la rue.
Alors je sais pas s'il est nul parce qu'il était pas forcément nul la saison dernière.
Mais tactiquement, physiquement.
Non, mais cette année,
l'année dernière, physiquement, c'était une machine. C'était une machine. Le mec, il enchaînait.
Apparemment, c'est à cause de la préparation sous Silvinho, selon Rudy Garcia.
Je sais pas, mais en tout cas, oui, tu l'as vu, t'as clairement vu. Alors, je sais pas si c'est la préparation, mais en tout cas, tu t'es fait balayer dans l'impact sur la première période. Aussi beaucoup parce que tu joues constamment latéralement, parce qu'en première mi-temps, tu joues pas sur les qualités des mecs. Les mecs, ils ne font que demander dans les pieds. Quand en deuxième mi-temps, t'as Maxwell Cornet qui commence, il l'avait fait déjà un petit peu, c'est le seul qui le faisait, mais quand le garçon va à 2000 et qu'à chaque fois il fait appel contre appel, on lui met dans la profondeur, ça change tout.
C'est le seul qui a fait les efforts.
Ça change tout. Martin Terrier aussi, beaucoup.
Vas-y, Pierre. Il joue en une touche de balle.
Pierre, vas-y.
Ouais, les gars, moi par rapport à Cornet, il est nul, mais vraiment, on voit que ça le travaille. Il est dégoûté d'être nul.
Peut-être.
Au moins, l'état d'esprit, il est là. Par contre, moi, je suis pour Andersen, je suis bien content qu'il soit sur le banc. Ça fait déjà, on est bientôt 6 mois dans la saison. Il a pas joué. Moi, personnellement, j'aurais mis Mbiwa derrière avec Donayer. C'est-à-dire, Marcelo, Andersen, vous êtes nuls depuis 6 mois, vous n'avez pas à saisir votre chance. Moi, je donnerais la chance à un quatrième mec. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire un match ne serait-ce que correct, comment vous voulez qu'on avance? Donc, moi, je trouve que tu as raison, Jonathan, par rapport à la fluidité du jeu, mais tout part de derrière. Les joueurs de Lyon, ils jouent latéralement ou en arrière. Tant que tu joues pas vers l'avant, comment tu peux fluidifier?
Il n'y a pas que ça, Pierre. Je pense aussi que tu vois.
C'est un élément, si tu veux.
Oui, alors, et je te donne le deuxième. Là, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Et le deuxième élément, à mon sens, c'est que pourquoi Cornet et Terrier brillent dans cette équipe-là? C'est parce que, comme Ludo l'a justement souligné, Cornet, c'est le seul qui fait les efforts dans la profondeur, appel contre appel. Il ménage pas sa peine. Et Terrier, c'est le seul joueur qui joue vraiment à une touche de balle, quoi. qui la lâche quand il faut la lâcher. Et j'insiste là-dessus, attention Jeff Reyna-Adelaide qui est un super joueur, attention parce que depuis 2-3 matchs, il a tendance à un petit peu vouloir la garder.
Il a toujours été lent, Joe.
Non, il a pas.
Je te parle pas de lenteur, je te parle
Depuis 2-3 matchs, il est excellent.
Depuis le match du Zénith,
l'autre fois parce qu'il le sort.
Alors le match du Zénith et ce match-là, ça fait deux.
Non, mais le match contre Nice, il nous fait gagner au bout d'une demi-heure, après le carton rouge. Aujourd'hui, il fait un match correct. C'est sûr qu'il y a rien d'exceptionnel, mais il fait un bon match.
Je trouve agaçant, moi, aujourd'hui.
Franchement, ça va, je te trouve sévère avec
Agaçant. Une fixation sur.
Agaçant au regard de son talent et de son potentiel qui est immense. Forcément, qu'on le juge d'une manière un petit peu plus sévère parce qu'on sait ce dont il est capable de faire.
Il fait pas.
Ouais, mais moi, je comprends plus les discours parce que la semaine dernière, entre guillemets, on critiquait parce qu'on le laissait pas assez jouer, on le sortait, il faisait pas un match complet.
C'est pas
et maintenant qu'il fait un match complet, il est pas bon, quoi. Donc,
Moi, je te suis là-dessus, Pierre. Moi, je trouve que c'est un garçon qui commence à prendre de l'ampleur, on lui a coupé l'herbe sous le pied pas mal de fois, et je trouve qu'il a été bien gentil. Il faut dire qu'il est jeune aussi, mais faut savoir, c'est que ce genre de joueur, il peut pas prendre quand t'arrives à l'Olympique Lyonnais. La responsabilité de faire, tu vois, il y a des mecs, tu vois, quand l'Olympique Lyonnais est moins bien, c'est normal que lui soit moins bien. Tu vois ce que je veux dire, il sera associé forcément à la performance de l'équipe. Mais je trouve qu'il tire son épingle du jeu depuis maintenant 3-4 semaines. C'est vraiment intéressant, et notamment sur le fait qu'il soit décisif.
Et surtout, moi, il y a un truc que je vois, c'est que c'est le seul joueur, il a encore une marge de progression, mais je trouve qu'il a du talent. Et à côté de ça, moi, alors vous allez me dire peut-être que c'est on est sévère en bout de 6 mois, mais Koné, nul. Andersen, nul. Jean-Luc, je l'ai jamais vu, je sais même pas à quoi il ressemble, jamais vu jouer.
Jean-Lucas,
je trouve nul. Oui, Jean-Lucas, on l'appelle Jean-Luc.
Ouais, c'est drôle.
Mais franchement, les 4 recrues, la 5e, la seule qui est, je sens un potentiel, c'est Adelaide, quoi. Tout le reste, Koné, pas de technique. Andersen, vraiment, il fait penser à Delict, mais l'arrière de la Juve, l'ancienne l'Ajax. Il fait penser à lui physiquement, mais techniquement, il est catastrophique. Et Mendes, c'est Mendes d'il y a 2 ans à Lille, quoi.
Ouais, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas conclu. Hein, pourtant, ici même, en août dernier, je me rappelle, on a fait l'after ensemble, messieurs, on disait Lyon a recruté intelligemment. Oui. Les retouches lyonnaises, après le départ de Fekir qui manque, on se rend compte réellement là. Tout semblait intéressant sur le papier. Toi, tu parlais de Andersen que tu avais vu jouer à la Samp, je crois, en disant que c'était un bon joueur.
Bah oui.
On en parlait, Ludo, joueur en progression également. Évidemment, Thiago Mendes, tu disais super pioche.
Jean-Lucas Sampaoli voulait démissionner quand on l'a pris.
Tous ces joueurs-là, Jeff Reyna-Adelaide, évidemment, bonne pioche. Et au final, tu as raison. Sur les 7 ou 8 joueurs, il y en a un qui réussit pour l'instant.
Le problème, les gars, il est simple, c'est qu'il y a eu une erreur de casting dès le départ au poste d'entraîneur et que ça t'a foiré toute la préparation et toute l'intégration
et
de joueurs qui sont quand même relativement jeunes. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais joueurs et ça ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas à l'Olympique Lyonnais. Moi, je pense que tous les joueurs qu'on a cités, qui ont été recrutés, ils arriveront à l'Olympique Lyonnais.
Tu peux les mettre tous dans le sac, hein, parce que c'est pas Silvinho qui a choisi tous les joueurs. Hein.
Non, bien sûr que non.
Il y a un staff également.
Je parle d'une erreur de casting d'entraîneur, c'est qu'il ne décide pas pour les joueurs. Attends, par
contre, Lyon-Lille.
L'homme du match, les gars. Ouais. Moi, j'aimerais juste parler de la prestation de Simacan à Strasbourg, qui a été exceptionnel. Et c'est vraiment un joueur qui est en pleine progression. Comment, Pierre, tu disais?
Moi, je trouve qu'il a été bon, mais enfin, de l'exceptionnel.
J'ai trouvé très, très fort, très, très intelligent dans ses placements. Tout seul, il a mangé les attaquants lyonnais.
C'est pas facile de gagner des 1 contre 1, notamment avec des mecs qui vont. Et lui, franchement. Je serais curieux de voir les statistiques des duels remportés, et notamment en 1 contre 1.
Voilà pour Lyon.
C'est dans la durée, quoi. Ouais, bien sûr. Sur un match, bon.
Ouais, t'as raison.
Non, mais je crois que c'est un gamin qui monte.
Un moment, attends, Pierre.
Merci, Pierre.
Il fait un bon match.
Merci, salut, les gars. Excellent, Lyon-Lille, prochaine journée, évidemment, en milieu de semaine.
Et puis, Cacré aussi, il faut dire un mot, parce que.
Cacré bien. Intéressant, quoi.
Le gamin, il s'est fait secouer, les 15-20 premières minutes. Je me suis dit, ouf, ça va être compliqué pour lui.
Non,
il s'est pas démonté. Force de caractère.
Passeur.
Un petit profil à la Maxime Lopez, un petit joueur de ballon, bien technique.
Écoute, un peu de muscu, un peu de protéines, et tu verras que ça sera un super joueur.
Viens faire un stage avec Jonathan McCarty, Maxence Cacré. Excellente soirée à toi, Pierre Turmet, quand tu viens à l'after. Voilà, messieurs, nous y sommes. Polo Breitner est avec nous. Le tirage au sort de l'Euro 2020. Bien sûr, Polo. Tu as été tiré au sort.
Peur pas, Polo, tu seras troisième.
Bonsoir, messieurs.
Tu vas passer, Polo, troisième.
Comment être inquiet quand on est français, quand on n'a plus perdu face à l'Allemagne depuis un quart de finale d'une Coupe du Monde en 2014 au Brésil ?
Oui, en plus j'ai adoré quand j'ai entendu Lucas Hernandez faire ses déclarations. Ça aurait été un Allemand qui aurait fait ça, ça aurait été la grève nationale en France. C'est extraordinaire en fait. Non mais c'est super ce tirage déjà parce que après le coup de bambou en fait reçu par l'Allemagne évidemment lorsque tu prends le champion d'Europe en titre et la coupe et le champion du monde, ce n'est pas évident. Mais tout de suite ils se sont dit mais c'est génial en fait. Déjà parce que t'as le président de la fédération qui se dit bah, c'est la fièvre, elle va être à Munich, donc ça va être ça, tout le stade sera rempli, etc. Tu vas à Joachim Löw qui dit évidemment on n'est pas favori du groupe, mais pour ma jeune génération c'est génial de voir un groupe comme ça parce qu'on va énormément apprendre. Et si on sort bien du groupe, ben on sait jamais ce qui peut se passer. Et puis t'as comment s'appelle-t-il, Birov par exemple, qui dit mais on vit quand même on vit quand même pour vivre des matchs comme ça.
Ouais.
Donc c'est
tout à fait.
Voilà, donc si tu veux l'histoire du groupe de la mort un peu négatif, etc. Ben il est évacué très rapidement en ce moment.
Salut Polo.
Salut.
J'ai une question tout un peu provoque, mais je pense que tu vas pouvoir y répondre de manière très objective. Mmh. Est-ce qu'on peut considérer que l'Allemagne, c'est encore une grande sélection de football pour l'Euro 2020?
Bah, le fait même que tu puisses penser une chose comme ça montre que la formation intellectuelle en France est compliquée.
Isolez-moi ça, si vous pouvez le ressortir.
Je suis pas responsable de l'école en France, mais je vais bientôt demander le poste de ministère de l'Éducation nationale.
Appelle le rectorat, très vite. Vas-y.
Et non, mais c'est évident. Le problème, c'est qu'on est dans une phase de transition avec cette nouvelle génération, qui, encore une fois, je le dis, extrêmement talentueuse, mais extrêmement inconstante. Si on voit par encore les matchs cet après-midi de Bundesliga, on pense à Jonathan Tah qui a été catastrophique avec Leverkusen. Ça devient compliqué de savoir quels sont les joueurs qui vont aller à l'Euro. Donc là, à ce niveau-là, moi, j'ai pas vraiment de soucis au niveau de la sélection. Le problème, c'est que il y a tellement de médiatisation aujourd'hui au niveau des équipes nationales que c'est compliqué. Dès qu'elles vont un peu moins bien, on a l'impression que c'est plus rien. On a tendance à les mettre tout en haut dès que ça va, tout en bas dès que ça va pas, etc. Moi, je vois que l'Allemagne, en fait, la qualité de l'effectif est là, et donc ça, je me pose pas très de questions.
Je te posais la question parce que je pense que c'est une sélection qui est plus en devenir qu'une sélection du présent. Ma question par rapport à l'Euro 2020, et donc parce que l'Allemagne est dans le groupe de la France, c'est que je pense que c'est une sélection qui arrivera à maturité dans 4-6 ans, dans 2-3 compétitions, et qu'à l'heure actuelle, je les vois très loin des vrais favoris de cet Euro-là. Ouais, après, c'est dense, que mon opinion.
Moi, de loin, je vois pas de nation qui soit au-dessus, fondamentalement.
Ils ont pas de taulier, Polo. Vous avez pas de taulier.
Ils ont Toni Kroos quand même, Manuel Neuer, ils ont des joueurs comme ça. Ouais. Donc ça suffit. Il y a Gnabry qui arrête pas de planter en équipe nationale. Là où je te suis, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, l'Euro 2020 va servir d'expérience pour la Coupe du Monde 2022. Je pense pas que ce soit l'Euro 2024, c'est beaucoup trop loin. Mais, au dehors des problèmes internes à la sélection, c'est-à-dire les blessés, par exemple, Leroy Sané ou Zule, on sait même pas dans quel état ils vont arriver, s'ils y arrivent d'ailleurs. Ouais. On sait pas qui, sera dans le 11 titulaire à tous les postes. On sait pas si Gnabry va jouer devant ou sur l'aile. On sait pas quoi faire de Timo Werner. Au milieu de terrain, Toni Kroos est évidemment titulaire, mais si on le met à côté de Kimmich, Gundogan, on en fait quoi? Marco Reus, est-ce que c'est un vrai leader? Tu vois toutes les questions, mais ça peut se trouver pendant le tournoi, sauf que comme c'est un groupe difficile, ils ont intérêt à le trouver rapidement. Mais je suis d'accord avec toi sur l'analyse du fait qu'en fait, ils vont se servir de l'Euro 2020 pour la Coupe 2022. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une excellente performance. C'est ce qui s'était passé à la Coupe du Monde 2010, hein. Tout le monde l'oublie, mais la sélection championne d'Europe Espoir 2009, avec Özil, Müller et compagnie, en fait, avait été demi-finaliste de la Coupe du Monde 2010 en n'étant pas du tout favori parce qu'il y avait des blessés partout, ils n'étaient pas prévus, les gars. Donc, je suis relativement optimiste, je n'ai pas de soucis. Ce qui est sûr, c'est qu'à Munich, il y a 75 000 places et on va s'éclater.
Ça va être magnifique. C'est le premier match d'Allemagne et de la France.
Mais en plus, c'est vachement important.
16 juin à Munich. C'est à l'Allianz, évidemment, c'est à l'Allianz.
C'est à l'Allianz, oui. C'est très important ce que tu dis, Nico. En plus, c'est le premier match. C'est-à-dire que les Français vont pas se jeter à l'assaut. Les Allemands, on va dire, si on fait un point, ça nous suffit largement pour monter dans le groupe. Et en fait, c'est peut-être plus le Portugal qui a un calendrier plus compliqué, en fait. C'est très classique. Et j'oublie pas que c'est à Munich. Et à Munich, il y a toujours des gros matchs avec l'équipe d'Allemagne. Quand c'est la grande équipe des Pays-Bas, ça se passe là-bas. Quand c'était les Belges, ça se passe là-bas. Les Italiens, ça se passe là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Munich. Toujours.
Polo, ce qui serait important, c'est là on est en train de faire des petits comptes d'apothicaire, j'espère qu'ils vont pas fonctionner comme ça, parce que celui qui finit troisième, il aura bien évidemment une chance de passer, mais le tirage d'après, enfin le tirage de huitième de finale, tu peux tomber contre les Anglais ou les Croates d'entrée si tu finis.
Quand t'es un Allemand, les Anglais. Quand t'es Allemand, les Anglais, si tu veux, tu les amènes au pénalty, c'est réglé. Mais c'est toujours. Non, mais ça, c'est pas. En fait, si tu veux, il n'y a pas de peur. C'est ça, moi, qui me.
D'accord. Comment ils ont réagi? Dis-moi, Polo, comment on a réagi en Allemagne à ce tirage au sort, et notamment la présence de la France dans ce groupe?
Je te dis, bon, évidemment, alors en France, on parle du groupe de la mort, mais en Allemagne, on parle du Hammer Group, c'est-à-dire le groupe du marteau.
Polo, il n'y a pas de peur parce que t'es quasiment sûr d'être qualifié dans ce groupe. Tu feras partie des meilleurs troisièmes.
Tu perds contre la France et le Portugal, tu gagnes contre la Hongrie,
je ne sais quoi. Mais tu prends 3 points, tu vas être dans les 4 meilleurs troisièmes,
bien sûr.
Donc il n'y a pas de crainte à avoir.
Non, mais on verra. Mais encore une fois, il n'y a pas de. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas les favoris de cette compétition. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je dis juste, c'est qu'il y a une énorme qualité dans cet effectif, et donc je vois pas ce qu'on pourrait leur reprocher. Évidemment, s'ils se font sortir de ce groupe et qu'ils sont sortis d'un euro qui quelque part se jouera chez eux, ça va mal le faire. Après la Coupe du Monde 2010, là, c'est pas possible. Donc là, tu peux être sûr que le sélectionneur saute, que tout là, ça crise. Hein.
Ça vole,
mais le ils se disent, mais attendez, il y a une opportunité pour sortir. Et si on joue bien contre la France et le Portugal, et si ça se passe bien, qui reste-t-il en face? Les supporters allemands, en fait, évidemment pensent que la Nationalmannschaft est la meilleure d'Europe. Ouais. Mais derrière ça, c'est qui? C'est la Belgique et la France. Voilà, c'est ça.
C'est très groupé, là, c'est très homogène.
Est-ce qu'on peut juste parler franchement et se dire que même si c'est un groupe qui est compliqué parce que le Portugal et l'Allemagne sont des sélections difficiles, mais si la France est au niveau mode commando Didier Deschamps pour une compétition sur un mois, il y a pas photo entre la France et l'Allemagne, il y a pas photo de la France et du Portugal.
Pogba retrouve sa forme
avec l'équipe de France actuelle.
Voilà. Non, je te parle de la France en mode compétition, Deschamps qui met des tartes dans la gueule à tout le monde, il faut des joueurs en forme pour ça. Je te dis pas que j'aime bien cette équipe de France, je te dis pas que j'aime bien Didier Deschamps, mais je te dis juste que cette équipe de France là avec Didier Deschamps sur une compétition de un mois où il va mettre le mode commando, je trouve que en termes de ce que l'Allemagne et le Portugal ont montré, la France est largement au-dessus.
Griezmann n'est plus le même actuellement, Giroud joue plus, et Pogba est blessé depuis 2 mois. Il y a beaucoup de choses. Valentin, Polo, tu restes avec nous parce qu'on va également parler de la journée en Bundesliga. Valentin, supporter d'Angers et de l'équipe de France, est avec nous. Bienvenue dans l'After, Valentin.
Merci, bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Salut, bien, tu penses quoi de ce tirage?
Stéphane Moulin, sélectionneur, il veut.
Il t'excite?
Non, Stéphane Moulin, il reste à Angers, pas sélectionneur. Non, il est très bien à Angers, il reste où il est.
Ce tirage t'excite ou il te fait peur?
Il me fait peur parce qu'il y a de belles équipes, mais je suis satisfait. Je suis satisfait. Pourquoi? Parce que quand on a vu la phase de groupe, on a pris des équipes qui étaient techniquement, un petit peu plus faibles que nous, voire même très faibles, beaucoup plus faibles que nous. Et honnêtement, faut dire ce qu'il faut dire, on s'est fait chier. On s'est fait chier à regarder l'équipe de France jouer parce que c'était pas intéressant, parce qu'on jouait contre des blocs fermés et il n'y avait pas d'occasion. Là, on va jouer des équipes qui ont un niveau identique ou quasi identique au nôtre. Là, on va voir vraiment ce que vaut l'équipe de France. On va pouvoir voir si l'équipe de France championne du monde, comme certains disent, c'était un miracle. On va voir si c'était un miracle ou pas. On va jouer des bonnes équipes dès le début. Et moi, je préfère ça. Je préfère qu'on ait une phase de poule où tout de suite, on rentre dans une compétition où on montre ce qu'on sait faire, où on montre qu'on a le niveau, on montre qu'on a une génération qui est talentueuse parce qu'on a une génération qui peut derrière dominer le football mondial parce qu'on a quand même de très bons jeunes qui peuvent dominer s'ils sont bons clubs pendant 7-8 ans parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes dans l'effectif. Certains, ce sera la dernière compétition. Je pense potentiellement s'il est de retour à Loris, à Mandanda, à Giroud également, ce sera la dernière compétition, peut-être même aussi à Matuidi. Mais on a quand même une génération derrière de joueurs qui arrivent. On n'a pas à se plaindre. On a en France un vivier de jeunes joueurs. On a un très bon vivier de jeunes joueurs. Faut quand même montrer qu'en France, on sait jouer au ballon. J'ai pas envie de voir les mêmes matchs qu'on a vus en phase de qualification, c'est-à-dire les matchs à Montréal, comme les 3 premiers matchs en Coupe du Monde.
Valentin, je vais finir. Oui, mais t'as raison à 100%. Sauf que je pense que de jouer contre des équipes qui sont plus fortes, qui vont pas mettre le bus, c'est à l'avantage de l'équipe de France. Considérer le style de jeu qu'a l'équipe de France, qui est une équipe qui est capable d'aller très vite vers l'avant, d'aller très vite en contre, de se projeter très rapidement avec Mbappé, avec Coman et compagnie. Et je pense qu'au contraire, il y a plus de chances de voir des beaux matchs et une bonne équipe de France contre l'Allemagne, contre le Portugal, que contre des équipes un petit peu plus faibles prétendument, mais qui se livreraient un peu moins.
Il a raison. Valentin,
c'est exactement ce que je dis. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
On est d'accord, excuse-moi.
voilà, je préfère prendre, même si c'est un tirage qui, c'est vrai, on parle du groupe de la mort, mais vaut mieux prendre un groupe où c'est relevé dès le début, où dès le début on montre ce que l'on vaut, que qu'on prenne des équipes entre guillemets plus faibles et qu'on s'ennuie au début,
mais
et
voilà.
qu'on ait du mal à lancer le moteur.
Qu'est-ce qu'on s'ennuie, les gars,
quart sur une grosse équipe, on ait du mal. Moi, je suis content de tomber sur un groupe comme ça, même si pour l'instant, on ne sait pas encore qui sera le quatrième adversaire, parce qu'il faut dire ce qu'il faut dire aussi. Les adversaires pour et le tirage de sort, c'est un gros bordel. C'est le gros bordel, c'est n'importe quoi.
Alors, Valentin, on sait pas encore qui est-ce qu'on joue, voilà, le quatrième adversaire du groupe de la France sera le vainqueur du barrage de la voie A. Si c'est la Hongrie, l'Islande ou la Bulgarie, voilà. Ce sera le vainqueur qui groupe. Pour ah, puis, on peut pas jouer à la Roumanie, hein, qui doit jouer à Bucarest.
C'est la musique de quoi ça? X-Files?
X-Files, bien sûr.
Au-delà du réel. Le vainqueur du barrage. Alors, de la voie D.
Je répète.
Donc,
Liga ou la Hongrie ou de l'autre côté, Géorgie, Biélorussie, Macédoine du Nord ou Kosovo. Ça veut dire que ça, c'est important. Et Polo, il est avec nous aussi. C'est que nous, si on joue la Hongrie, c'est l'Hongrie qui reverse notre chapeau. Ça veut dire qu'on joue trois matchs à l'extérieur. On joue l'Allemagne en Allemagne, la Hongrie deux fois, la Hongrie à Budapest.
On est tous ravis. Bien évidemment, on est tous ravis en tant que supporters, spectateurs, bien évidemment.
Il y a ras-le-bol le Danemark et la Suisse à chaque fois, on s'ennuie.
Après, moi, si je suis Didier Deschamps, on peut constater quand même que sur les dernières compétitions, l'équipe de France a toujours la chance d'avoir un groupe qui lui permet de monter.
Quand tu dis ça, la quoi? La chance.
La chatte.
Non, ouais.
La tocha. Oui,
on va pas le dire. C'est bon, stop. Ça a été trop dit aujourd'hui, on va pas le dire 50 fois non plus, tu vois. La chance de tomber sur un groupe qui lui permettait de monter en puissance. Là, j'ai l'impression. Tu vois, peut-être qu'il va falloir changer. Là, faut être près de
suite. C'est intéressant.
Là, faut être
c'est ce que dit Valentin.
Là, faut être près de suite.
Tout de suite.
Ouais. Donc je sais pas.
La dernière fois que l'équipe de France a été dans un groupe de la mort, c'était en 2008 pour l'Euro. Vous vous souvenez, hein, un Euro qui est passé comme ça.
Parce qu'un Euro c'est long.
Avec la demande en mariage.
Mine de rien.
Italie, Pays-Bas, Roumanie. Résultat, la France fait dernier du groupe C. Un nul de défaite. Voilà,
parce que ça va être des matchs à grosse intensité, forcément. Ouais. Donc tu vas y laisser peut-être des plumes. Donc la compétition c'est long. Donc tu vois là, ils avaient toujours axé sur le fait en disant voilà. Bon, là, t'avais deux équipes ou une ou deux équipes où t'étais quasiment sûr de battre, même en étant très moyen.
Médiocre.
Ça sera intéressant de voir comment ils vont axer, s'ils vont changer leur préparation. Je suis curieux de voir ça.
Voilà, Valentin.
De toute manière, les gars, Giroud a joué un match titulaire cet après-midi, donc on est sûr au moins là qu'il commence le
vrai match. On va en parler avec Julien Laurence. Le pauvre, il a joué titulaire enfin, mais il perd. Il marque pas. Merci, Valentin. Excellente soirée à toi. Valentin.
Merci, messieurs. Bonne soirée.
Salut Valentin.
Petite dédicace à mon collègue et ami Marc, qui est supporter de Marseille, qui vient avec moi voir le match à Angers. À Angers mardi, donc j'espère juste une chose, c'est que Angers gagne comme ça et pendant une semaine, j'entendrai pas parler au boulot.
Angers-Marseille, évidemment.
Marc, tu passeras plus jamais à l'antenne.
Si, c'est pas toi, Jonathan, qui décide. Tu n'es que de passage, Jonathan, ici.
Je rigole, ça va, putain.
T'es comme un entraîneur.
On t'embrasse, Marc.
Je rappelle les infos également, la France, a priori, ça a confirmé, va s'entraîner, va vivre cet Euro à Clairefontaine, dans son camp de base, bien sûr, avant d'aller jouer à Munich et à Budapest. Que, info importante pour les supporters français, 10 000 places pour les supporters français à Munich, 8 000 à Budapest pour chaque match. Hein. Il faut s'inscrire sur le site de la Fédération française du football, puis sur le site de l'UEFA à partir du 4 décembre à 14h. On est entré, la Fédé est entrée en négociation avec différentes sélections en vue de l'Euro 2016. Souhait du staff et de Deschamps.
La Belgique,
exactement. Mais la Belgique, a priori, n'est pas très motivée. Martinez n'a pas forcément envie de se préparer.
Nous craignons.
Bah, c'est embêtant. C'était le seum avant l'Euro. Ce sera quoi pendant l'Euro? Polo! T'as vu comment on est en France, on est mauvais. Polo Breitner, toujours avec nous pour parler de son championnat, la Bundesliga.
Il est génial.
Quoi?
Il est juste génial ce championnat. Enfin, cette année, elle est.
Mais oui, mais voilà.
Elle est folle.
Elle est folle parce que le Bayern a perdu, Polo.
Ben oui, le Bayern a perdu. On restait sur des raclées infligées à tout le monde depuis la nomination d'Hansi Flick. Et finalement, le Bayern, avec un seul Français sur le terrain, c'est Pavard sur son côté droit. Hein. Tolisso était encore une fois sur le banc, tout comme Kingsley Coman. Et puis évidemment, Lucas Hernandez est blessé, est en phase de récupération. Ce qui est très intéressant, c'est que ce fut un match, notamment en première mi-temps, extraordinaire, où ça allait d'un but à l'autre.
Contre les Verkusen, je ne l'ai pas dit.
Les Verkusen qui, encore une fois, cette saison, nous fait du Verkusen, c'est-à-dire 0 sur 9 en en Ligue des Champions, puis 6 sur 6 depuis les matchs retour, mais ils vont s'écrouler, à mon avis, lors du dernier match. Ouais. Mais c'est extraordinaire parce qu'en fait, tout est, si tu veux, le Bayern a fait une très très belle prestation, mais ça voulait pas. Trois poteaux, Lewandowski n'a pas marqué, Goretzka est dans une forme internationale, justement, puisqu'on parlait de l'équipe d'Allemagne. Mais si tu veux, il y a des faiblesses, c'est le bloc équipe est beaucoup trop haut. Et là, bah, tu vois, c'était une journée sans pour le Bayern Munich, et Leverkusen en a profité d'une très très belle façon, puisqu'ils ont sorti Bailey, qu'on voyait plus depuis quasiment un an, qui nous sort le doublé. Et heureusement, côté Bayern Munich, bah, Thomas Müller, encore une fois titulaire, parce que n'oublions pas, Thiago et Coutinho étaient encore sur le banc.
Et buteur.
Donc, si tu veux, le Bayern aujourd'hui est seulement quatrième. Fribourg jouant demain à domicile, ils peuvent passer devant. On est à 13 journées, on a dépassé le tiers du championnat. Ça devient compliqué pour le Bayern Munich. C'est-à-dire qu'il est évident que là où on s'était habitué depuis une dizaine d'années d'avoir le Bayern avec 10 points d'avance à la trêve, que là, ils seront pas champions d'automne, par exemple. Hein.
Oui, mais bon. Est-ce que c'est suffisamment intéressant pour eux?
Non, mais je trouve que c'est très intéressant sur l'analyse à faire, parce que nous, on s'est habitué à voir des Bayern avec période Guardiola ou Henkes qui écrasaient complètement le championnat dès novembre et décembre, et là, on est redevenu dans un Bayern complètement normal.
On en rêve en France, Polo.
Mais là, c'est génial. Parce qu'en plus, mais c'est la même chose avec le Borussia Dortmund.
Voilà, justement,
il y a Lucien Favre. Les 30 premières minutes du Borussia ont été, pareil, d'un très très haut niveau. Ils mènent 2-0, on se dit très bien, Lucien Favre, c'est génial. Et qu'est-ce qui se passe sur une action anodine? Et ben, il y a un tir contré, ça fait 2-1 pour le Borussia Dortmund. Et Mats Hummels, le champion du monde, les joueurs expérimentés, qui trouvent le moyen de se faire expulser juste avant la fin de la première mi-temps. Et Dortmund souffre toute la deuxième mi-temps, mais ça passe pas du côté du Hertha. Donc, il y avait d'ailleurs avec sa première avec Jürgen Klinsmann d'ailleurs, qui revenait sur un banc en Bundesliga. Et donc, finalement, le Borussia Dortmund se sort avec un œil au beurre noir, mais a gagné les 3 points et donc se relance un petit peu. Et donc, c'est génial. Demain, Mönchengladbach joue pour reprendre la tête du championnat. Vous avez Leipzig qui l'a emporté logiquement à Paderborn, même s'ils ont un peu tremblé parce qu'ils menaient 3-0 très rapidement. Donc tout ça a fait que c'est un peu compliqué à suivre, parce qu'il y a des contre-performances un peu partout. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis incapable de dire aujourd'hui qui sera le champion à la fin de l'année. Ça. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur Leipzig au passage.
Intéressant. Ah, oui. Leipzig pour être champion d'Allemagne. Depuis quand c'est pas arrivé ça?
C'est jamais arrivé. Il faut remonter. De ce club-là, c'est pas arrivé. Mais sinon, il faut remonter à
l'ancien Leipzig.
Il faut le local Leipzig. Là, c'est dans la RDA. Sinon, en 1903, si je raconte pas de le FB Leipzig, si je raconte pas
n'importe quoi. Merci Polo, c'était extrêmement complet.
Merci Polo.
Excellente soirée à toi. Fred Hamel arrive avec son groupe. C'est pas groupe de la mort. Espagne, Pologne, Suède et un vainqueur du barrage B. On aura également Simone Rovera, bien sûr, et Julien Laurence qui s'en sort. Pas trop mal dans son groupe aussi, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamain.
Avec Ludovico Bragnac, avec Jonathan McCarty à la radio sur RMC et à la télévision sur RMC Sport News, bien sûr. On déroule le fil du tirage au sort. Nos drôles dames sont là. Après Paulo Breitner et l'Allemagne, voici Simone Rovera et l'Italie. Bienvenue sur la grande scène européenne, Simone Rovera.
Ciao, buonasera.
Bravo, Simone. Je suis tellement heureux. On est tellement heureux que tu travailles enfin un été. Bravo, Simone.
On va être tranquille avec lui. Calme. Il est à l'hôtel, là. On va pas faire 10 minutes avec lui. D'accord. Il est fatigué, Simone. Il a travaillé.
Et alors? S'en fout?
Non?
Écoutez, j'ai regardé un Genoa Torino qui c'était pas la meilleure de spectacle.
Il m'étonne. Bon, Simone, l'Italie, groupe A.
Les groupes de la mort.
Ça y est, c'est parti. La Suisse, la Turquie, le Pays de Galles.
La Suisse, tu peux mourir d'ennui. La Turquie, on fait pas des blagues sur ça.
Le Pays de Galles, vas-y.
Le Pays de Galles.
Gareth Bale, c'est génial, tu vas te marrer, Gareth Bale.
Il y a Gareth Bale et Ramsey.
Gareth Bale, c'est un revenant en football. Donc, c'est.
Bon, tes favoris, hein, Simone.
Merci, ça fait plaisir.
Non, mais c'est la réalité, vous cachez pas.
Les médias italiens aujourd'hui, après les tirages, c'était plutôt bon tirage, ça passe pas, ça pouvait aller pire. Déjà ce soir, ils se sont rendus compte qu'il était un peu trop généreux, ils disaient « oui, mais c'est quand même compliqué ».
Quand même compliqué, sans déconner.
Non, mais Roberto Mancini l'a dit très clairement, on n'a pas pris la France. Donc c'est déjà très bien, c'était la vraie peur de ce tirage, de tomber dans les groupes des champions du monde. C'est un groupe que oblige l'Italie, pour moi, et on dira ça sûrement d'ici au début de l'Euro, à terminer première et gagner ses matchs, peut-être tous, peut-être 2 sur 3, mais l'Italie est obligée de faire un très beau parcours en sachant qu'elle joue les trois matchs à domicile. Les ingrédients, ils sont bons pour l'Italie. Les tirages sont plutôt simples. L'équipe a les temps aussi de se mettre en route dans une Euro où on arrive avec une équipe qui sera très jeune. Tout se passe très bien. On pouvait vraiment craindre pire. Et donc, maintenant, à l'Italie de montrer d'avoir les niveaux pour revenir en force sur la scène européenne.
Tu vas jouer à domicile ? Tu vas jouer à Rome ?
Les trois matchs de poule, oui. Donc, c'est pas mal. J'espère de passer une dizaine de jours à Rome. Il fait beau, on mange bien. Si RMC décide qu'il faut que, je sais pas, Jonathan vient avec moi.
Avec plaisir, mon pote.
Ou toi, Nico.
Ah oui, moi je viens. Oui.
Des belles soirées.
Ah oui, avec plaisir, mon pote.
Ça. On va t'envoyer à Bakou, tu vas voir.
Je suis gentil.
Bah, t'es un amour, Simone. Après tout ce qu'on en sait,
voilà pour la Squadra Azzurra qui, on le rappelle, a survolé son groupe invaincu en qualification. Et la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles. Vous commencez par qui, Simone ? J'ai pas noté.
Par la Turquie.
Par la Turquie, très bien. C'était un peu la grosse affiche d'ailleurs, de ce groupe.
C'est l'Italie qui entame.
Au match d'ouverture. Italie-Turquie, voilà. Exactement.
Voilà. On avait déjà joué un match en 2000 face à la Turquie, notre premier match à l'Euro, et c'était un Euro au final qui s'était pas si mauvais. On a perdu en finale, tout le monde se souvient. On avait gagné avec des buts d'Antonio Conte et de Filippo Inzaghi. C'était une autre époque.
La Serie A rapidement, Simone. Franck Ribéry s'est blessé aujourd'hui avec la Fiorentina. Ouais.
Franck Ribéry est sorti à la fin de la première mi-temps, puis il a eu un gros choc à la fin sur la dernière minute de la première mi-temps, et on craint une entorse. On verra dans les prochains jours s'il y aura des dégâts un peu plus graves, s'il arrivera à rejouer en 2019. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, quand même, la priorité pour la Fiorentina, la priorité des inquiétudes, c'est l'avenir de Montella. Cette défaite mise vraiment sur la sellette.
À domicile, 1-0 face à Lecce, quoi. 17e du Serie A.
De la fin du match, il y avait déjà les sites spécialisés en mercato qui parlaient d'une possible départ de Montella dans les prochains jours, avec Gennaro Gattuso qui serait un des favoris pour prendre sa place sur le banc des touches. Donc, on verra. Autre entraîneur qui passe une mauvaise soirée, c'est Thiago Motta, battu à domicile par Torino sur un match un peu étrange, c'est-à-dire Genoa fait son match comme d'habitude, 60% et plus de possessions, un peu stérile, quelques occasions, un poteau, une barre transversale, et Torino sur la seule occasion de la deuxième étape, en corner, marque le but de 1-0. Donc voilà, c'était un peu difficile pour l'ancienne parisienne qui, je vous dévoile un petit secret, à la fin du match, il a croisé Sirigu dans le vestiaire. Ouais. Et Sirigu lui a dit, continue comme ça, ton Genoa joue bien, continue, parce que c'est même si tu as perdu, on voit que ton Genoa joue bien. Donc c'était une belle retrouvaille entre les deux anciennes parisiennes.
Simone, est-ce que le président de Naples a perdu la tête ? Non, mais
la situation est un peu compliquée à Naples, en sachant qu'aujourd'hui il y a eu une prise de position de Sindacat Mondial des joueurs en disant que les sanctions sont irrégulières et que le club ne peut pas décider les mises au vert obligatoires et sanctionner les joueurs qui n'acceptent pas ça. Donc on peut dire que oui, c'est très compliqué.
C'est du jamais vu.
C'est du jamais vu, et que les présidents, selon certaines infos qui sont sorties, a fait comprendre aux joueurs que, bon, au final, ils auront l'amende, mais avec les prix déjà établis de la Ligue des Champions pour le passage en huitième des finales, s'ils se qualifient, au final, ils ne perdront rien. Donc,
bon, moi, j'aime bien, ils s'en foutent, mec, ils s'en foutent, c'est le patron.
Incroyable, ça.
Ils s'en foutent.
Merci, Simone.
Ciao, Simone.
Même pas un mot sur Cristiano.
Salut, Simone.
Compte, aujourd'hui, c'est pas l'actualité, Cristiano, on l'a oublié en Italie.
Voilà, exactement. Bonne nuit, Simone.
On vient avec toi, Rome.
Ah ouais, mais 3 jours.
Bien sûr, bien sûr.
Ce week-end à Rome. Oui. Partir en Italie. Tu connais cette chanson ?
Exactement.
Ouais. Voilà. Minicube, exactement. Merci, Toto. Lilicube en régie. Voilà. Bonsoir, Julien Laurence.
Salut, Nico. Salut à tous.
Salut, Julien.
Il s'en sort bien, Julien Laurence. Croatie, République tchèque et le vainqueur du barrage C, de la voie C. Qui peut être, logiquement,
la Serbie, Norvège.
Si t'as la Serbie, ouais, c'est quand même, ça devient un groupe différent quand même. Hein. Ouais.
L'Écosse, ce serait sympa parce que ce serait un derby. Oui. Un derby, il y a beaucoup d'animosité entre Écossais et Anglais, en espérant que ça se passe bien en dehors du stade et dans le stade entre supporters. Mais surtout, ça apporte un peu de piment dans le groupe. On se rappelle du but fabuleux de Gascoigne contre l'Écosse à l'Euro 96, par exemple, avec le sombrero pied gauche et la reprise de volet pied droit.
Donc,
les Anglais ont des bons souvenirs. Après, la Croatie, c'est une équipe qu'ils connaissent bien, puisque c'est bien sûr l'équipe qui les a battus en demi-finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans. Après, les Anglais les ont battus lors de la Ligue des Nations, notamment 2-1 à Wembley. Et puis la République Tchèque, ils les ont eu dans leur groupe de qualification pour cet Euro, justement. Ils avaient gagné largement à Wembley. Ils s'étaient inclinés en République Tchèque, un match où vous avez vraiment été absent et qui avait montré aussi dans un sens leurs limites un petit peu et les limites tactiques de Southgate. Donc c'est peut-être bien dans un sens qu'ils retrouvent les Tchèques parce qu'ils auront sûrement appris de cette défaite-là. Donc ils étaient forcément très satisfaits du groupe, même si ils ont très vite souligné que le premier du groupe de l'Angleterre affrontera le deuxième du groupe de la France et de l'Allemagne. Donc tu pourrais facilement avoir un Angleterre-France ou un Angleterre-Allemagne ou un Angleterre-Portugal, effectivement, dès les huitièmes de finale à Dublin.
Et ce serait incroyable.
À la Viva Stadium, ouais.
À la Viva Stadium.
Tout à fait.
Et Julien, t'as vu un peu possible le barrage groupe B, possible Irlande du Nord, Irlande.
Ouais, ce serait incroyable. Non, tous les deux qui gagnent, effectivement,
leur demi-finale. Je vais le voir,
ouais.
Après, ce serait incroyable, ouais. Que les deux Irlandes, dans un contexte brexitien en plus,
exactement,
avec tout ce que ça représente, s'affrontent, ce serait effectivement.
Et t'imagines, si l'Irlande du Nord se qualifie, ça veut dire que l'Irlande du Nord jouerait plusieurs matchs à la Viva Stadium.
Ouais, exactement.
Qui serait un petit peu tendu, exactement, pour le coup.
Voilà donc pour le tirage au sort, l'Angleterre, Croatie, République Tchèque, et on verra en mars prochain pour le vainqueur des barrages de la voie C. La Première Ligue, beaucoup de choses encore à raconter aujourd'hui. Confirmation que City, Manchester City coince 2-2 face à Newcastle. Je regardais là, c'est une victoire seulement sur les 5 derniers matchs de City. Toute compétition confiée.
Julien, on y est, c'est bon.
Ça y est.
On l'avait déjà dit la semaine dernière.
11 points d'avance pour Liverpool qui s'impose.
C'est bon, Jules.
2-0, 2-1 aujourd'hui face à Brighton. Ça y est, on avance là vers le titre.
C'est bon.
Ouais, ben oui.
Ah, ça y est, ouais, effectivement.
Ça va être historique.
On va garder ça, on va isoler ça et puis on ressortira ça en 3 mois, les gars. Vas-y.
Non, mais c'est vrai, 9 points déjà, on était très sceptiques en disant est-ce que City peut vraiment revenir. L'année dernière, ils étaient revenus de 7 points au mois de janvier, mais ils avaient eu cette victoire en janvier, justement, début janvier, le 3 janvier, qui leur avait permis déjà de réduire l'écart de 7 à 4 points. Et après, ils avaient effectivement remonté ces 4 points pour finalement reprendre 5 points d'avance sur Liverpool au total, donc gagner avec 1 point d'avance à la fin de la saison. Là, 11 points, pour moi, c'est terminé, même si Liverpool va avoir effectivement énormément de matchs d'affilée, là, c'est avec le championnat du monde des clubs notamment. Je pense que 11 points, c'est incroyable. Alors, à moins que Leicester arrive à faire une saison incroyable et deviennent le concurrent principal de Liverpool, je vois pas comment ce titre peut échapper maintenant à Liverpool, qui a gagné 2-1 contre Brighton sans briller encore une fois, en perdant Alisson expulsé, en tremblant un peu même à la fin du match. 2 buts de Van Dijk sur coup de pied arrêté d'Alexander Arnold, c'est encore une fois pas très convaincant, mais ça gagne encore. Et pour Manchester City, si tu regardes les expected goals, donc la probabilité qu'ils marquent sur les occasions qu'ils ont eues, pour Manchester City c'était 3, pour Newcastle c'était 0,2. Newcastle arrive à marquer 2 buts, tu te demandes même comment, et City rate énormément d'occasions et finit par marquer simplement 2 buts et tu perds encore 2 points. C'est assez incroyable.
Et Liverpool, les gars, c'est 31e match sans défaite en championnat, record du club, 87-88, égalé.
Ouais, mais il n'y a pas de secret, hein.
C'est-à-dire,
quand tu peux travailler dans la continuité, ouais, sans faire n'importe quoi, en recrutant pas à tout va, en construisant une équipe avec un coach qui est façonné pour cette équipe là
Tu peux avoir une usure.
Tu donnes les moyens
de voir.
Sûrement un cycle de 3 ans. Tu vois, mais il faut le laisser, le cycle de 3 ans. Tu vois, faut que les mecs puissent avoir l'opportunité de jouer ensemble au moins un peu plus que 6 mois.
Merci Julien.
Ciao
Merci,
Julien.
Gars, bonne
excellente
émission.
Soirée à toi. À très vite dans l'after, bien sûr. On finit par Fred Hermel. Dans un instant, il est avec nous pour parler de son groupe, le groupe de l'Espagne, le groupe.
Eux.
Bah oui, Irlande. Forcément, on va les taper.
À toutes, Fred, il est là dans le sas de l'after avec Jonathan Macardy et Ludovic Obraniak. On est ensemble jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC,
l'after foot,
Nicolas Jamain.
Avec Ludovic Obraniak, avec Jonathan Macardy et avec Frédéric Hermel. Car oui, il s'appelle Frédéric. Salut Fred.
C'est quand ma mère. Quand ma mère est pas contente après moi.
Ah ouais, t'as raison, moi c'est pareil, Nico et Nicolas, c'est pareil.
Tu vois, quand c'est bon chéri, bon grand, Fred, c'est bien.
Frédéric, viens ici. Arrête, Frédéric.
Quand c'est Frédéric le Gustave Hermel, ça va pas du tout.
La psychose. J'aurais dû m'appeler Gustave. Grand prénom français, Gustave.
C'est très beau, c'était mon grand-père maternel. Mais en 1905.
Mais t'as pas diminutif pour Gustave.
Gus?
Ouais, Gus, c'est pas terrible quand même. Non. Ah, ça va, Gus. Non, c'est pas terrible.
Pas mal,
Gus.
Ouais. C'est très beau, Gustave.
Et Espagne.
C'est très beau, Gustavo.
Espagne, Pologne, Suède et vainqueur du barrage de la voie B, Fred Hermel.
Bah, franchement, c'est plutôt un bon tirage pour l'Espagne.
Eh ben, oui.
En tout cas, c'est vécu comme ça. Parce que, bien entendu, l'Espagne n'est pas tombée dans ce qu'on appelle ici le Grupo de la Muerte, qui est bien sûr le groupe de l'équipe de France. Hein, ça,
comment tu dis le jackpot, messieurs dames, en espagnol?
Gilberto Brisbois.
Bon, oui, non, forcément, oui, vous aurez pu prendre la France, évidemment, les pointailles du chapeau 2.
Alors, quand même, vous allez quand même sûrement vous prendre l'Irlande, et attention, on va vous ouvrir en deux, on va vous désosser.
Ouais, mais enfin, par rapport au groupe de la France, c'est un. Voilà.
Bah, Pologne va finir première du groupe, normalement.
Lewandowski, voilà, ouais, Lewandowski.
La Pologne va finir première.
Meilleur attaquant du monde actuellement.
Non.
J'en étais sûr.
Non, le meilleur buteur.
Le meilleur attaquant, ouais, c'est Karim Benzema. Ouais. Et la première fois que c'est correct, le meilleur attaquant au monde, c'est Karim Benzema.
Elle peut
Benzema.
Même dire le meilleur joueur. Hein.
Du monde actuellement?
Moi, ça me pose pas de problème de dire ça.
Il y a des bases.
En ce moment?
Ouais. Bah, top 3. Ah, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs.
Parce qu'il est mieux que Messi, il est mieux que Ronaldo.
Ah, oui, en ce moment, oui.
T'as des Sadio Mané, t'as des.
Et
dans les joueurs offensifs?
Il est dans le top 3, je pense.
Top 3, top 3 mondial.
Ça fait des mois que. Qu'il a un niveau exceptionnel. Même aujourd'hui, on parlera
il n'a pas marqué. Hein. Ah bon, on en parlera tout à
l'heure. Il n'a pas marqué, il n'a pas fait un grand match, mais tout ce qu'il a fait, c'était intelligent. Quoi. Voilà, bon. C'est quelqu'un qui est toujours utile.
Fred, revenons alors.
Pour l'Espagne, oui. Radio sort alors.
On parle, bien entendu, ici, on regarde, on se dit, bon, la Suède, voilà, c'est toujours un rival compliqué, etc.
Oui, mais bon,
la Pologne. Voilà.
La Pologne, c'est vraiment Lewandowski, vraiment, parce qu'ici, c'est un joueur qui a quand même été très proche du Real à un certain moment. Donc, c'est vraiment un buteur dont on a toujours beaucoup parlé. Bon, et puis après, le tirage au sort.
Ça sera l'Irlande à San Mamés pour le troisième match.
Oui, pourquoi pas. Oui.
Ah ouais, moi, j'y crois. Hein.
Pourquoi
mais
pas.
Vous savez que c'est quand même. Je fais un petit aparté, mais vous savez que j'aime bien, moi, raconter. Raconter mes petites choses là d'Espagne, c'est un événement colossal que la sélection espagnole joue à Bilbao. Pays Basque.
Hein. Ouais, bah oui.
Ah oui.
Moi, symboliquement, tu nous racontes pour comment ça se fait, c'est pas symboliquement, c'est très
fort. Ouais, rappelle-nous le choix de Bilbao.
Non, mais tout simplement parce que Bilbao a fait un nouveau stade il y a 3-4 ans qui est absolument extraordinaire. Voilà, donc. Il y a eu une candidature décidée au niveau régional et national, au niveau de la ville, au niveau de l'ATT Club. Mais c'est un événement colossal, parce que bon, on connaît toute l'histoire du nationalisme basque.
Bien sûr, oui.
Voilà, il y a quand même un groupe terroriste qui a tué pendant 40 ans, hein, le TEA. Donc, c'est pas anodin. Et que la sélection espagnole puisse revenir au Pays Basque, c'est un événement colossal.
Mais
vraiment.
C'est apprécié comment, Fred?
Ah mais non, mais c'est quand même un signe de normalisation, même si...
On le savait, elle était en cours depuis quelques temps déjà.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, après, il n'y a pas eu de mouvement contre ça, mais c'est une normalité qui n'est pas normale. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est quelque chose qui... Moi, je n'ai jamais vu la sélection espagnole jouer à Bilbao, quoi.
Bon, de toute façon, groupe très ouvert pour l'Espagne, évidemment, très facile pour, enfin, très abordable.
Non, pas
pour
très
l'Espagne.
Facile.
Très abordable.
C'est pas
non, j'ai pas
tirage.
Dit ça. Non, je me reprends.
C'est pas le pire tirage.
Très abordable pour l'Espagne, évidemment, d'autant plus que en étant troisième, tu peux être qualifié pour les huitièmes de finale. Donc, si tu veux, vous êtes en huitième de finale de l'Euro.
Mais
vous,
attention,
moi, je n'ai pas une confiance énorme dans cette Espagne.
Voilà, ça c'est intéressant.
Elle manque.
Que tu vois comme outsider de l'Euro.
Ah non.
Même pas.
Ah non.
Non,
mais il suffit de regarder la liste des 23. Enfin, il n'y a pour moi que deux joueurs qui sont dans le top 3 mondial.
Sergio Ramos
et Jordi Alba.
Ouais, c'est ça.
Et peut-être Carvajal parce qu'il revient bien. Peut-être que Carvajal.
Et devant, rappelle-nous un peu les meilleures forces devant.
Bah ouais, non, Busquets, il est plus dans le top 3 mondial.
Et devant, Fred.
Physiquement. Bah, Moreno.
Ouais, non.
Voilà,
ouais,
Morata.
Non. Ouais, non. Ouais, c'est vrai. T'as raison.
Tu vois, enfin, ouais, il y a toujours un doute par rapport au buteur. Ouais. Costa, il reviendra pas.
Ouais, c'est sûr.
Voilà. Même pas outsider. Bon, quoi. Bah, voilà. Chapeau 2,5.
Ça fait l'Irlande qui gagne 1-0 sur un but de McLean à
Liga.
Bilbao,
ça veut dire quoi? On peut le faire rapidement avant de parler de la Liga avec Fred. Vos trois favoris. Si on fait deux chapeaux, trois favoris, trois outsiders.
C'est pas
facile.
Angleterre.
Ouais.
Oh non.
Ludo, vas-y.
Si, moi je mets Angleterre, Italie.
France.
Bon, moi je peux donner mes favoris.
Vas-y.
Alors France,
Belgique France. Et après le reste.
Ah oui, Belgique, pardon.
France, Belgique très largement. Mmh. Et après il y a un groupe d'outsiders. Je mets l'Italie, je mets l'Angleterre. Ouais, un groupe d'outsiders. Mais France et Belgique largement. Oh non. Je le mets dans le groupe d'outsiders l'Allemagne. Mais France et Belgique largement au-dessus des autres en termes de
sur le papier. La France, ça dépend vraiment de
3-4 joueurs qui doivent revenir à leur niveau et après il va bétonner.
Mais c'est hyper important. Je veux dire, Lucas Hernandez, c'est pas dans quelles conditions il va revenir.
Griezmann,
Coman, tu sais pas.
On s'en fout un peu. Oui. C'est plus, c'est Hernandez, Griezmann, peu, Pogba.
Mais tu te rends pas compte, non, un joueur comme important. Ça, comme c'est
ouais,
important.
Ouais, mais Ludo, on peut, il peut être remplacé. Il peut être remplacé. Il n'est pas aussi indispensable que Pogba ou qu'Hernandez.
Pogba, s'il est dans, enfin, ça fait quand même un moment qu'il joue plus, tu vois.
On a 6 mois pour les faire, évidemment. La Liga, Fred. La victoire sous les trombes d'eau du Real Madrid à la veste de Buzyn. C'était pas le plus gros match du Real, qui confirme en tout cas sa bonne dynamique, puisque le Real a pris la tête avec 3 points d'avance, c'est ça ?
3 points d'avance
sur le Barça qui joue demain.
Et 6 sur l'Atlético, et demain il y a Atlético Barça.
Et ouais. Ah oui. Ça, on va en parler également du retour de Griezmann dans un instant avec toi. Alors, bon, Benzema n'a pas marqué, mais bon, ça roule, Zizou était content.
C'est le match, vous savez, des matchs dans le Nord, des matchs au Pays Basque, sont toujours des matchs très compliqués pour le Real, pour toutes les grosses équipes. Alavés, c'est une petite pelouse, elle est assez étroite, il n'y avait pas d'espace, il faisait un temps, mais un temps basque, donc il pleuvait beaucoup. Et c'est ce genre de match que le Real doit gagner s'il veut être champion. Ouais. Vraiment. C'était l'équipe très solide. Vraiment. Enfin, c'est, alors, ça pouvait pas être un match brillant de par le jeu proposé par l'adversaire, de par les conditions météorologiques. Mais le Real Madrid est jusqu'ici le seul club à avoir réussi à marquer 2 buts à Alavés. Sur son terrain. Voilà, c'était pas évident. En plus, il y a eu un penalty complètement idiot de Ramos là qui monte, sort le coude. Enfin, je veux dire, c'était évident que même si l'arbitre le voyait pas, que la VAR allait le voir. Donc,
mais Zidane fait une Ramos là. Ramos fait une Ramos, il marque.
Voilà.
Et derrière, voilà. Il met un coup de coude aussi.
Et voilà, exactement.
Voilà, un match à la Ramos.
Et il y a un but de Carvajal 7 minutes plus tard, mais on a vu un Real qui a des ressources, parce qu'après l'égalisation, voilà, ils ont essayé de tempérer, etc., parce que vraiment c'était difficile de jouer dans ces conditions. Bon, il y a l'égalisation, mais ils ont quand même trouvé les ressources pour l'emporter.
Dis-moi, Areola, titulaire.
Ouais, il était bien. Oui, en fait, pour une raison très simple, c'est que Zidane veut vraiment qu'Areola soit prêt à entrer à n'importe quel moment. Et quand je l'ai vu titulaire, je me suis dit, ah oui, tiens, quand Courtois a failli être expulsé l'autre jour contre le PSG, vous vous souvenez?
Oui, bien sûr. Oui, il a failli rentrer.
Il allait rentrer, il était en train
de. Il était déjà devant la ligne de touche. Ouais.
Voilà, donc finalement, avec la VAR, le rouge de Courtois a été annulé. Mais Zidane veut absolument que son deuxième gardien ne fasse pas que des matchs de Coupe du Roi ou des matchs sans enjeu, comme le match à Bruges où il va sûrement jouer dans 15 jours. Donc Areola va jouer beaucoup de matchs, justement parce que Zidane veut qu'il soit prêt à entrer à n'importe quel moment. Et il fait 2 arrêts décisifs à la 88e et la 89e minute, parce que là, ça aurait été très difficile pour le Real d'égaliser à 2-2, vu les conditions. Et il y a eu 5 corners de suite pour Alavés. Et Areola fait ce qu'on demande à un gardien du Real. C'est-à-dire, tu as très peu d'interventions à faire durant une rencontre, mais il faut les faire.
Ce qu'ils n'étaient pas forcément au PSG, d'ailleurs. Bref, Fred, je veux qu'on parle quand même du gros match demain 21h. Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, FC Barcelone, avec évidemment le retour d'Antoine Griezmann. Moi, la question que je te pose, c'est extrêmement simple. Bon, t'es pas devin, mais à quel accueil il doit s'attendre ?
Il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que ça va être horrible.
Horrible ?
Ah oui. Horrible.
Carrément horrible.
Oui, horrible.
Ah, bien sûr, oui. Et mérité même.
Ah non.
Ça, c'est autre chose.
Mais on n'a pas le débat là-dessus. Bah, volte-face.
Non, vas-y, dis-moi.
Non, en fait, ce qui se passe, c'est que. Vous savez, il y a une sorte de walk of fame autour du stade. Mm-hmm, ouais. C'est-à-dire, il y a une sorte de plaque sur le sol avec
des joueurs qui ont marqué l'histoire.
Des joueurs, voilà, qui ont marqué l'histoire, etc. Et la plaque consacrée à Antoine Griezmann avait été profanée, entre guillemets.
Wow.
Où il y avait des ordures qui avaient été mises, il y avait des autocollants qui cachaient son nom, où c'était marqué on ne touche pas à l'Atlético. Ça, c'était déjà au mois de juillet, ça s'est passé 2-3 fois depuis le début de la saison. Donc, Antoine Griezmann a fait 5 années magnifiques.
Sa communication lui raconte.
Ouais.
Et même au Barça d'ailleurs, tu vois, il est perdant des deux côtés quasiment.
Ouais, bien sûr. Non, mais ça c'est clair que c'est la communication, le fait déjà qu'il avait un peu joué avec les nerfs des gens, avec la fameuse décision, les gens l'ont dit, mais tout ça pour
ça, son erreur. Ça.
Et puis après partir un an après, alors en plus avec les négociations qui avaient démarré au mois de mars, enfin bref, tout ça fait que les supporters vont siffler quand le speaker va annoncer son nom, qu'il y a de grandes chances que chaque fois qu'il touche la balle, qu'il soit hué. Sincèrement,
c'est terrible,
je trouve ça ridicule.
C'est terrible.
Je trouve ça ridicule parce que c'est quand même un joueur qui a été clé durant les 5 années où il était à l'Atlético. Si l'Atlético a été si haut pendant toutes ces années, c'est grâce à
c'est une histoire d'amour d'une histoire d'amour, Fred, qui tourne mal.
Ouais.
Donc au final, ça c'est obligé
une mauvaise rupture.
C'est triste.
Voilà,
on est d'accord, mais c'est compréhensible.
Merci, Fred. C'est con. J'aurais aimé qu'on parle de Dembélé.
Dembélé également, le pauvre Dembélé. Mais bon, on n'a pas le temps. 10 semaines, ça va être terrible. Alors, non, apparemment, il fait des efforts pourtant. Merci Fred.
Adios.
Salut, salut.
Merci Ludo. Merci Jonathan.
Salut,
fin de l'after de l'élégance. On se retrouve nous la semaine prochaine, mais demain soir, à l'after avec Gilbert, bien sûr, Daniel et Pierre Ducrot. Excellente soirée à tous.
Ciao, ciao les gars.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Football's crazy, but not as crazy as your hunch. What's your hunch? It's me, the voice inside your head, that tells you what's going to happen in this weekend's games. The one that tells you it's going to be 9-0. 11, no, 12 corners. 2 yellows, 3 reds, and what, 1 rogue streaker? Okay, bit niche, but you get the picture. No matter how complex your hunch is, Betway's Bet Your Way Builder lets you combine markets like goal scorers, corners, cards, and match winner into one bet on one match, and you get odds instantly. Heed your hunch with Betway's Bet Your Way Builder.
Full terms apply. 18 plus. BeGambleAware.org.